Théologie biblique, Père Philippe, 23 décembre 1983, Saint-Joseph.
Les trois épreuves. Alors je vois celle d'Abraham, nous verrons celle d'Isaac et celle de Jacob ensuite, quand nous serons arrivés à ces lieux-là. Mais il faut tout de suite comprendre qu'il y a là quelque chose de particulièrement important. Les pères de l'Église, les spirituels, et je dirais au fond Saint François de Sales, entre autres, dit combien ce passage de la Genèse est important pour saisir l'économie divine qui purifie le cœur de l'homme et qui va aller jusqu'au bout de la purification. Pour réaliser un lien de confiance. On ne peut avoir confiance en quelqu'un que quand on sait que même quand l'épreuve est là, il demeure fidèle. C'est le mystère de la fidélité poussée jusqu'au bout. Et pour nous, nous savons que ce passage est aussi un lieu de préfiguration très important pour le mystère de la compassion. Il y a une fiche sur la compassion pour voir à travers toute l'Écriture comment le mystère de la compassion est constamment révélé. Et comment, à travers toute l'Écriture, ce mystère de la compassion est là, présent. Ici, c'est le premier moment, on peut dire, toujours le lien entre Abraham et Marie. Or, c'est Dieu qui sonde le cœur d'Abraham. Et c'est ce que Saint François de Sales dit, que toujours dans notre vie, il y a un moment où Dieu sonde notre cœur. Est-ce que nous sommes capables d'aimer plus la volonté du Père que notre propre œuvre réalisée avec Dieu, que le fruit d'une alliance avec Dieu? Est-ce que nous sommes capables d'offrir à Dieu ce que Dieu lui-même a réalisé par nous? Est-ce que nous sommes capables de dépasser cela pour ne regarder que la volonté du Père sur nous, d'être purifié d'une manière telle que tout ce que Dieu a réalisé par nous, en se servant de nous, nous soyons capables de l'offrir totalement? Et le mystère de la pauvreté, hein, parce que c'est ça la pauvreté. Si facilement nous accaparons les dons de Dieu, si facilement nous accaparons les grâces que Dieu nous a données gratuitement, ou les œuvres que nous avons faites sous le souffle de l'Esprit-Saint, nous les accaparons comme nos propres œuvres. Et à ce moment-là, ce que nous avons fait, dans la mesure même où nous l'accaparons, devient un mur, un obstacle à l'action de l'Esprit-Saint sur nous, et nous empêche d'aller plus loin. C'est dans ce sens-là que la réalisation des œuvres risque toujours de supprimer la limpidité au point de vue contemplatif. Dieu nous demande de réaliser des œuvres, mais il nous demande d'être pauvres quant à nos œuvres. Si nous ne sommes pas pauvres quant à nos œuvres, mais c'est impossible. Dieu ne peut pas se servir de nous comme il voudrait se servir de nous. Se servir de nous d'une façon plénière et totale. Se servir de nous en faisant que nous n'avons rien à nous. C'est sûrement cela qui est une des purifications les plus grandes. En plus de cela, je crois qu'il y a ici quelque chose de très caractéristique. C'est que c'est la mort du cœur du Père pour réaliser une œuvre sacerdotale. C'est le Père qui doit mourir dans son cœur de Père pour offrir son Fils comme victime d'amour, comme victime, comme agneau. Et pour cela, il faut que le Père meure. Alors, c'est le passage de la paternité, selon la chair et le sang, une paternité bénie de Dieu, une paternité qui a une grandeur merveilleuse. Abraham, c'est le père des pères, hein. C'est une paternité extraordinaire, dans une très grande fécondité, en vue d'une nouvelle fécondité, qui est une fécondité sacerdotale. En réalité, puisque nous sommes dans l'Ancien Testament, ça ne se réalise pas, mais ça s'annonce. Ça s'est réalisé dans le cœur d'Abraham, en ce sens que Dieu a accepté le sacrifice intérieur. Et c'est suffisant pour Dieu. Le sacrifice extérieur d'Isaac n'a pas d'importance. Hein. C'est pas ça que Dieu veut. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu n'a jamais demandé le sacrifice d'Isaac. Mais Dieu a demandé à Abraham d'être capable d'offrir son fils. Et d'être réellement capable de l'offrir. Il a dû aller jusqu'au bout de l'exécution, comme si il devait réaliser l'exécution. Et Abraham a accepté d'aller jusqu'au bout des exigences de l'obéissance. Donc, on pourrait dire, hein, que c'est un passage qui nous montre la grandeur de l'obéissance et qui nous montre comment l'obéissance permet le dépassement à l'égard de toute œuvre humaine, si grande qu'elle soit, pour arriver à une œuvre toute divine. Puisqu'il faut qu'Abraham agisse vraiment en serviteur, en instrument de Dieu. Et on le voit bien, si on est attentif au texte, il est très significatif. On voit très bien qu'Abraham accepte la volonté de Dieu en se taisant. Quand il s'agissait de Lot, Abraham a discuté. Quand il s'agit de son propre fils, Abraham ne discute pas. Parce qu'en réalité, il s'agit de lui. Il s'agit d'offrir à Dieu son cœur de père. Dieu a développé dans le cœur d'Abraham un cœur de père, et j'allais presque dire un cœur de grand-père. Il y a Ismaël, puis Isaac. Et cet amour que Abraham a pour son fils Isaac, cet amour si fort, prends ton fils, ton unique, que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, c'est Dieu qui réclame l'offrande actuelle, la destruction, et c'est Abraham qui doit le faire. Il ne doit pas simplement accepter intentionnellement, il doit aller jusqu'à l'exécution. Il doit accepter cette offrande qui doit aller jusqu'au bout. C'est donc Dieu qui après avoir développé dans le cœur d'Abraham un cœur de père, réclame de lui d'être l'instrument tout à fait pur, tout à fait pauvre de Dieu. Un instrument ne regarde pas l'œuvre qu'il réalise, mais uniquement la volonté de la cause principale qu'il considère. Abraham ne doit plus regarder qu'une seule chose, c'est la volonté de Dieu sur lui. Il ne peut pas regarder le résultat. Le résultat est impossible. Le résultat, c'est l'offrande de son fils. C'est impossible. Abraham est enfermé dans un secret. Un secret de Dieu sur lui. Dieu lui demande cela. Et il ne tient que parce qu'il est, j'allais dire, enfermé dans ce secret. et qu'il ne voit plus que la volonté de Dieu sur lui. Et ceci est très manifeste dans la manière dont se fait l'exécution de cet ordre de Dieu. Les deux premiers jours, il y a les serviteurs avec le petit Isaac. Tandis que le dernier jour, les serviteurs avec l'âne restent loin. Et Abraham et son fils, seuls, vont marcher vers la montagne de Moïra. Et c'est durant ce dernier jour, on voit comment Abraham, d'une certaine manière, marche en solitaire, uni uniquement à la volonté de Dieu. Le petit Isaac, lui, il est libre et il ne comprend pas l'attitude de son père. Et c'est lui qui réveille le cœur du père. Mon père. Il réveille le cœur du père. Abraham avait accepté de mourir dans son cœur de père, puisqu'il accepte d'exécuter l'ordre de Dieu. Donc il accepte de mourir dans son cœur de père. C'est accepté intentionnellement. Et il est dans l'ordre de l'exécution. Et voilà que le petit Isaac réveille le cœur du père. Mon père. Abraham dit, me voici mon fils. Isaac dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Alors c'est important de saisir qu'Abraham ne donne pas de réponse, il se tient dans une attitude de total abandon. Il ne peut pas faire autre chose. Il se met dans cette attitude de celui qui s'en remet entièrement à Dieu. Et donc, il ne peut pas désigner où est l'agneau. Et à ce point de vue-là, on peut dire que c'est Jean-Baptiste qui va désigner où est l'agneau, l'agneau véritable. L'agneau véritable, Jean-Baptiste au désert, qui désigne « voici l'agneau de Dieu ». Il y a un lien entre Abraham et Jean-Baptiste, à ce point de vue-là. C'est du reste tout à fait normal. Il ne faut jamais l'oublier. Abraham ouvre une maison, Jean-Baptiste ferme la maison. Puisque Jean-Baptiste doit déclarer que c'est terminé. Et il montre que c'est terminé en montrant l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Alors, si on tient compte de ce que saint Augustin nous dit comme grand principe d'exégèse, saisir le leitmotiv de cette musique divine, on peut dire que le mystère de l'agneau apparaît comme fondamental par rapport à l'économie divine de l'ancienne alliance. Puisque au moment de la grande épreuve du cœur du Père, quand on pose la question « Où est l'agneau ?», le Père ne peut pas répondre. L'Ancien Testament ne peut pas répondre. Parce que l'Ancien Testament demeure dans la foi et l'espérance. L'amour est présent, mais c'est la foi et l'espérance qui dominent. C'est ça qui caractérise l'ancienne alliance. Tandis que dans la nouvelle alliance, c'est l'amour qui passe devant. L'amour passe avant la foi et l'espérance. L'amour présuppose la foi et l'espérance, mais l'amour va plus loin. Et c'est l'amour qui désigne « voici l'agneau de Dieu ». Je crois qu'il y a là pour nous comme une clé. Dès qu'on saisit un leitmotiv de l'ancienne alliance, et quand on saisit le leitmotiv fondamental, c'est très important pour nous, pour la compréhension de l'évangile de Saint Jean. pour la compréhension de cette affirmation qu'on voit dans l'Apocalypse, la Vierge, c'est celle qui suit l'agneau partout où il va. Si vous ne comprenez pas ce leitmotiv de l'Ancien Testament, vous ne comprenez pas la force de cette affirmation. La Vierge, c'est-à-dire le cœur fidèle. La fidélité, c'est suivre l'agneau partout où il va. Et la fidélité, c'est l'exigence de l'amour. Dans l'Ancien Testament, on ne peut pas dire que c'est cela qui domine. Dans l'Ancien Testament, c'est la foi et l'obéissance. C'est la foi et l'espérance. C'est la formation de la foi et de l'espérance. Tandis que ce qui domine dans la Nouvelle Alliance, c'est le mystère de la charité qui montre « Voici l'agneau de Dieu ». Et c'est l'agneau qui est le mystère de l'amour et de la miséricorde. Et c'est Jean-Baptiste qui l'indique. C'est le pauvre. Abraham n'est pas assez pauvre. Il est encore celui qui est éprouvé. Il a une pauvreté merveilleuse dans son obéissance. Et c'est l'obéissance. C'est pas l'amour qui domine chez lui. C'est l'obéissance. Il y a bien une fidélité, une grande fidélité, mais ce n'est pas ce qui caractérise le mystère de Marie. Le mystère de Marie, c'est la fidélité. Elle suit l'agneau partout où il va. Et c'est important pour nous de saisir ce point de départ de l'ancienne alliance en Abraham et dans l'épreuve même du cœur d'Abraham. Et cette épreuve, elle se situe au niveau de l'agneau. Puisque l'agneau qu'Abraham doit offrir à Dieu, c'est son propre fils. Abraham doit, à ce moment-là, montrer qu'il aime plus la volonté du Père sur lui que son propre fils, qui est le fils de la promesse, qui est le fils que Dieu lui a donné d'une manière miraculeuse. Abraham doit montrer qu'il aime plus la volonté du Père sur lui. Alors, il va très loin dans une pauvreté, mais il ne va pas jusqu'au bout. Où est l'agneau ? Dieu y pourvoira. C'est Dieu lui-même. Ce qui montre que l'Ancien Testament doit rester dans cette attitude d'abandon. Attitude de celui qui ne sait pas. L'Ancien Testament ne sait pas où il va. C'est très caractéristique, ça. Et c'est du reste pour ça, je crois, que face à Jésus, il y a eu cette espèce d'affolement. L'Ancien Testament ne sait pas où il va. Et ça nous est montré ici. Abraham, qui a une grâce particulière pour quitter toute la grande culture d'Our et pour aller vers la terre de Canaan, quand il s'agit de ce qu'il y a de plus secret, l'offrande de son fils, il ne sait pas, il ne peut pas le dire. Il le sait, si vous voulez, intérieurement dans son cœur où est l'agneau, mais il ne peut pas le proclamer. Il ne peut le vivre que de l'intérieur et de façon silencieuse. Tandis que Jean-Baptiste, qui est au terme de l'ancienne alliance, Jean-Baptiste qui est celui qui ferme la porte, l'ancienne alliance est terminée. C'est plus difficile de fermer une maison que d'en ouvrir une, voyez. Ouvrir une maison, c'est la foi. Fermer une maison, c'est l'espérance. Très curieux. Parce que Abraham, c'est la foi, et Jean-Baptiste, c'est l'espérance. Et c'est Jean-Baptiste qui ferme la maison. Et qui montre, voici l'agneau de Dieu. Il ferme la maison pour aller plus loin. Parce que c'est ça l'espérance. C'est d'accepter de fermer une maison pour aller plus loin. Et pour aller infiniment plus loin. Mais pour montrer que tout ce qui est construit dans l'Ancien Testament est imparfait. Donc ne va pas jusqu'au terme. Et c'est Jean-Baptiste, ça, c'est l'espérance du pauvre. Pour ensuite montrer que la nouvelle alliance commence avec l'agneau. Et que toute la nouvelle alliance, c'est vraiment le mystère de l'agneau. Et l'agneau, c'est le mystère de la surabondance de l'amour. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y bâtit l'autel. Il disposa le bois, lia Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel. Mais Dieu était très loin pour éprouver le cœur d'Abraham. Il a fallu qu'il aille jusqu'au bout dans l'ordre de l'exécution. Et l'ange du Seigneur l'a arrêté à ce moment-là. L'ange du Seigneur l'appela du ciel et lui dit, Abraham, Abraham. Il dit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu. Dieu le savait, c'est bien évident. Mais il demandait le concours d'Abraham. C'est toujours comme ça que Dieu opère. Hein? Dieu nous fait faire certains gestes pour savoir jusqu'où nous allons dans l'ordre de l'amour. Dieu veut sonder les reins et les cœurs. Et Dieu sonde les reins et les cœurs d'Abraham ici. Et maintenant, je sais, ça, il faut bien le comprendre, c'est à partir de cette coopération d'Abraham à l'égard de l'ordre de Dieu, c'est dans l'obéissance que Dieu sonde les reins et les cœurs. C'est très important. C'est... et on comprend, parce que tant que l'obéissance n'est pas là, tant qu'il n'y a pas l'exécution, on demeure dans un domaine intentionnel. Alors, vous voyez, c'est ça qui est très mystérieux, c'est qu'à la fois, Dieu ne regarde que les intentions et Dieu veut l'exécution. Parce que nous le verrons avec le prophète Samuel, Dieu ne regarde que l'intention du cœur. Et Dieu veut de temps en temps que l'intention se réalise dans l'exécution. Et Dieu veut qu'on aille jusqu'au bout pour bien nous faire comprendre qu'il attend de nous cette coopération. Puisque c'est par l'obéissance qu'on coopère. Celui qui ne veut pas obéir ne coopère pas. Et donc à ce moment-là, Dieu ne peut pas réaliser l'alliance. L'alliance se réalise dans l'amour et donc dans la réalisation ultime. Abraham leva les yeux et regarda. Un bélier était là, retenu par les cornes dans un hallier. Vous voyez que nous retrouvons quelque chose d'analogue avec Agar. C'est très curieux. On a des yeux qui ne voient pas. On est dans la foi. Et quand Dieu montre sa présence, parce que nous avons été jusqu'au bout dans l'ordre de l'exécution, dans l'ordre de l'obéissance, alors les yeux voient ce qu'avant ils ne voyaient pas. On voit le parallélisme avec Agar. C'est dans deux circonstances totalement différentes. Puisqu'on ne peut pas dire qu'Agar c'était une coopération, c'était dans l'ordre de l'obéissance, c'était dans l'ordre de la souffrance. Il y a des ressemblances. L'obéissance fait toujours souffrir. Et la souffrance, même quand elle n'est pas dans l'obéissance au sens immédiat, elle purifie, si elle est offerte à Dieu. Donc il y a la purification de la souffrance et la purification de l'obéissance. Et des deux côtés, on voit comment subitement Dieu fait voir quelque chose qu'avant on ne voyait pas. Abraham leva les yeux et regarda. Un bélier était là, retenu par les cornes dans un hallier. Il ne regardait pas avant. Il ne pouvait pas regarder. Il était trop pris par la volonté du Père sur lui. Il était trop saisi au plus intime de son cœur par cette volonté de Dieu qu'il voulait réaliser. Alors il ne voyait que ça. Une fois que Dieu est là, Dieu lui donne un regard nouveau. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom de Yahvé Yéré, d'où l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de Yahvé, il sera pourvu. Donc toujours le jeu de mots est toujours aussi les noms de Dieu. C'est très intéressant hein, pour la théologie des noms. La théologie des noms est liée à telle ou telle action de Dieu, à telle ou telle expérience de Dieu. C'est Dieu, il sera pourvu. C'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui donne. L'ange de Yahvé appela Abraham du ciel une seconde fois et dit, « Je le jure par moi-même, oracle de Yahvé, parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le rivage de la mer. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Et par ta descendance se béniront toutes les nations de la terre en retour de ce que tu as obéi à ma voix. » Dieu immédiatement montre le fruit de cet acte d'obéissance. Alors ça, ce serait intéressant de comparer avec la première bénédiction. Première bénédiction, c'est dans l'ordre de la paternité selon la chair et le sang. Cette seconde bénédiction est dans l'ordre spirituel. Abraham a grandi aux yeux de Dieu. Il y a quelque chose de nouveau. Il a accepté d'être l'instrument de Dieu auprès de son fils. Il a accepté d'être instrument de Dieu auprès de son fils d'une manière telle qu'il a offert son fils. Et donc, il le reçoit gratuitement de Dieu d'une nouvelle manière. C'est toujours le même, mais il est reçu autrement. Et donc, la bénédiction de Dieu sur Abraham prend un nouveau caractère ici. C'est à l'égard de celui qui a été comme éprouvé par Dieu, éprouvé au plus intime de son cœur, au plus intime de sa volonté. Et on souligne bien, ta descendance possédera la porte de ses ennemis, et par ta descendance béniront toutes les nations de la terre en retour de ce que tu as obéi à ma voix. Et on dit bien à ma voix. L'obéissance à la voix, pas seulement à l'obéissance à la parole. Et vous comprenez pourquoi. La parole, on la comprend. La voix, c'est au-delà de la compréhension. On obéit à la voix sans comprendre. Et Abraham a obéi sans comprendre, parce qu'il ne pouvait pas comprendre. Si Abraham s'était mis à réfléchir, il aurait dit à Dieu que Dieu prenait une attitude contradictoire. Le petit Isaac était le fils de la promesse, le petit Isaac était celui qui était complètement donné par Dieu, et voilà que c'est Dieu lui-même qui veut le retirer. C'est contradictoire. Donc, il n'a pas obéi à la parole, il a obéi à la voix. Il a obéi à la volonté. C'est ça que ça veut dire. À la volonté d'amour. À cette volonté d'amour qui dépasse toute intelligence qu'on peut en avoir. Mais quand on obéit seulement quand on comprend, on n'obéit pas totalement. L'obsequium fidei, l'obéissance de la foi, implique d'aller au-delà de ce qu'on comprend. On obéit parce que c'est la volonté de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire au-delà de ce que je peux comprendre. Et selon ton bon plaisir. Abraham revint vers ses serviteurs. Et ils partirent pour aller ensemble à Bersabée. Ah, on ne dit pas du tout qu'il a raconté aux serviteurs. C'est resté un petit secret entre Abraham et Yahvé, ce que je crois. C'est resté un petit secret. Ou un grand secret. Parce que c'est l'alliance à l'égard de tout le peuple d'Israël. Toute cette alliance à l'égard du peuple d'Israël repose sur cette alliance-là. Le peuple d'Israël en Isaac a été mis en holocauste sur la montagne de Moïra. Le peuple d'Israël en Isaac a été mis en holocauste sur la montagne de Moïra. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Le peuple d'Israël en Isaac. En Isaac est contenu tout le peuple d'Israël. Et en Isaac, le peuple d'Israël a été mis en holocauste. Et Abraham était prêt à l'immoler. Parce qu'Abraham aime plus la volonté du Père que toute sa descendance à partir d'Isaac. Et c'est cela que Dieu veut. Oui. Et c'est cela que les grands prêtres n'ont pas compris. Être fils d'Abraham, c'est avoir la foi d'Abraham. C'est donc être capable de réaliser ce qu'Abraham a réalisé. Puisque tout ce qu'Abraham a vécu, c'est le mystère d'Israël dans sa source. Et c'est cela que Dieu demande au peuple d'Israël. Et quand le peuple d'Israël n'est plus capable de cela, le peuple d'Israël erre. Il n'est plus dans la volonté de Dieu. Il n'est vraiment dans la volonté de Dieu que quand il vit ce qu'Abraham a vécu. C'est très important cela, parce que ça fait comprendre comment il y a une espèce de purification très radicale dans le cœur d'Abraham. Et ça demeure pour nous, parce que ce qui est vrai pour le peuple d'Israël est a fortiori vrai pour l'Église. Abraham est le père et le grand-père. Entre Abraham et nous, il y a Marie. Et Marie assume tout Abraham d'une manière encore beaucoup plus loin, beaucoup plus profonde. Donc tout ce qui a été vécu divinement dans le cœur d'Abraham est présent dans le cœur de Marie et doit être présent dans notre cœur. Et c'est cela la purification que Dieu réclame de chacun d'entre nous. Être capable d'offrir à Dieu toute l'œuvre que Dieu nous a demandé de réaliser, que nous avons fait avec le plus d'amour possible, avec toute notre intelligence, avec tout notre cœur, avec toutes nos capacités, d'être toujours prêt à offrir cette œuvre pour que la volonté du Père passe devant. Et au fond, c'est ça la vie religieuse. Si on n'arrive pas à ça, si on n'y est pas encore, on est novice. Le prophète, c'est celui qui dit « Je suis capable de ça avec l'aide de Dieu », c'est bien évident. Je suis capable de ça. Et il est toujours dans cet état de celui qui est capable de tout offrir pour que la volonté du Père passe devant. C'est très fort, hein, et c'est très beau du reste. Alors quand c'est à travers le cœur d'Abraham, ça prend une force étonnante, parce que c'est l'incarnation de cela. L'incarnation de ça à travers ce passage. Hein. Il faut lire le commentaire de Kierkegaard, hein, sur le sacrifice d'Abraham. Kierkegaard avait la foi, c'était une foi protestante, mais quelquefois, les fois protestantes ont des accents que nous devons garder, parce qu'ils disent quelque chose de vrai. Et c'est étonnant de voir la manière dont Kierkegaard regarde le sacrifice d'Abraham, parce que pour lui, c'est le moment où on doit saisir ce que c'est que la foi. C'est là où on saisit ce que c'est que la foi divine. Si on ne voit pas ça, on ne comprend pas ce que c'est que la foi divine. La foi divine nous fait passer, voyez, de ce que représente le point de vue de la paternité humaine, si grande qu'elle soit, donc paternité humaine, à l'instrumentalité à l'égard de Dieu. Devenir un instrument de Dieu, c'est infiniment plus grand que la réalisation de n'importe quelle œuvre. C'est ce que le Père de Haut, sans être Kierkegaard, aimait rappeler tout le temps, que c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est justement ce passage de la causalité seconde. Abraham est cause seconde, hein, quand il est père, et quand il a éduqué Abraham, le petit Isaac, il est cause seconde à l'instrumentalité. Parce qu'il est évident, il est demandé à Abraham d'être instrument de Dieu. Lui qui était cause seconde, lui qui avait coopéré avec Dieu d'une manière si extraordinaire, si étonnante. Oui, comme Marie qui coopère avec Dieu d'une manière si étonnante par sa maternité divine. Ben, il lui est demandé le sacrifice de sa maternité divine pour devenir mère des hommes, instrument de grâce pour Jean et pour toute l'Église, et donc pour chacun d'entre nous. Et quand nous disons que Marie est notre mère, n'oublions pas ce qu'elle a offert pour être notre mère. Elle a offert la vie propre de son fils. Comme Abraham a offert la vie propre de son fils pour être instrument de grâce pour tout le peuple d'Israël. Et il y a une analogie que nous devons maintenir et qui est très forte et qui est très belle et qui nous fait comprendre, voyez, la grandeur de la foi. Puisque Abraham, c'est celui qui nous fait comprendre la grandeur de la foi. Le traité théologique de la foi, pour nous, c'est regarder Abraham. Chaque fois, on va essayer de comprendre cela. Je vous l'ai dit, au terme, on reprendra tout pour voir tous les caractères de la foi selon chacun des épisodes de la vie d'Abraham. Or, ici, évidemment, il s'agit de quelque chose de très grand. La foi peut exiger de nous d'être de purs instruments de Dieu. C'est la foi contemplative. On devient des instruments de Dieu. On ne fait plus une œuvre. On ne fait plus une œuvre. On n'est plus qu'à celui qui offre sa vie. Et qui offre totalement sa vie. Pour que la volonté du Père passe devant. Vous voyez, quand certains mystiques peuvent dire, par exemple, ce n'est plus le moment des activités, ce n'est plus le moment des œuvres, c'est le moment de l'offrande et de la prière. C'est ça que ça veut dire. Et je dirais que c'est tout le temps ce point de vue de l'offrande de notre vie et l'offrande de ce qui nous est le plus cher, le petit Isaac. Nous avons tous un petit Isaac. Il est bien caché. Nous avons tous un petit Isaac. Et plus nous avancerons, le petit Isaac grossira. Hein. Alors nous avons tous un petit Isaac. Alors ce petit Isaac, un jour ou l'autre, Dieu nous le demande. Il nous le demande de bien surveiller, de l'aimer beaucoup, de faire qu'il grandisse, c'est très très bien. Et au moment où il sera parfait, c'est à ce moment-là qu'il demandera de l'offrir. L'offrande de notre petit Isaac. Alors quelquefois, ça arrive plusieurs fois dans la vie. Hein, parce qu'avant Isaac, il y a Agar, il y a Ismaël, il ne faut pas oublier. Alors il y a Ismaël avant.
Alors,
Ismaël, on ne lui a pas demandé l'offrande, on l'a demandé de le quitter. Ce que vous avez tous fait, vous avez quitté Ismaël. Mais à l'intérieur de la vie religieuse, il y aura Isaac, ne l'oubliez pas. À l'intérieur, vous ne pouvez pas savoir d'avance, mais il faut le savoir. Et à l'intérieur de la vie religieuse, Dieu demande l'offrande d'Isaac. Parce qu'Isaac, c'est à l'intérieur même, hein, cette coopération profonde, tandis que Ismaël, c'est un petit peu à côté. Donc c'était ce qui était avant, c'était une chose très humaine. Alors le passage, vous voyez, de l'œuvre d'Ismaël au petit Isaac. Après ces événements, on annonça à Abraham, voici que Milca, elle aussi a enfanté des fils à Nahor, ton frère. Alors on donne toute la série. Ça n'a pas un intérêt immédiat pour nous. Je prends tout de suite le chapitre 23. La vie de Sarah fut de 127 ans. C'est bien. Il est bon pour l'homme de ne pas être seul. Ça s'est bien réalisé là pour Sarah. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Et Sarah mourut à Kiriat Arba, c'est-à-dire Hébron, au pays de Canaan. Abraham vint pour se lamenter sur Sarah et pour la pleurer. Ça fait partie de la liturgie, ça. Hein, faut bien. C'est la liturgie de... Mais c'est une liturgie véritable, c'est pas une liturgie conventionnelle. Abraham aime sûrement beaucoup Sarah, il l'aime d'autant plus que Sarah était pour lui un instrument de sanctification. Puis Abraham se leva de devant son mort et parla au fils de Heth en ces termes. C'est, on ne peut pas nier, c'est bien évident, il y a eu des souffrances très grandes dans la vie d'Abraham à cause de Sarah. On ne peut pas nier, c'est dit. Alors, Et il l'aime d'autant plus. Hein. Alors c'est ça qui nous semble très intéressant de voir ici. Hein. Vous allez voir. Puis, et Hébron, ceux qui ont été à Hébron savent très bien que c'est sans doute qu'à Hébron, on a les plus grandes émotions religieuses. Je crois qu'Hébron reste la capitale religieuse. Je dis la capitale religieuse, comprenez bien, de tradition religieuse. Hein. Pas de la foi. La foi, c'est Jérusalem et c'est Rome. Mais Hébron, c'est quand même quelque chose de fondamental, dans la mesure où justement les traditions religieuses touchent quelque chose de fondamental. Parce que Hébron, c'est le lieu de la sépulture. Et quand on va à Hébron et qu'on pleure avec Abraham sur le cercueil de Sarah, vos pleurs sont unies à celles d'Abraham, c'est quand même très beau. De pleurer avec Abraham sur Sarah, c'est beau. Et de pleurer sur Abraham avec tous les fils de la descendance d'Abraham, on se trouve unis au point de vue religieux. Les Arabes, les Juifs et les Chrétiens. On dit tous en regardant Abraham, père. Et on peut dire aux Juifs, faisons attention, il vaut mieux pas le dire, mais dans le fond de son cœur, qu'on est encore plus proche d'Abraham que... Et on peut le dire aux Arabes, qu'on est encore beaucoup plus proche d'Abraham que... Puis Abraham se leva, ça c'est les fondations religieuses, puis Abraham se leva et de devant son mort et parla au fils de Heth. C'est très beau ça, il se leva de devant son mort. Une espèce d'appartenance nouvelle entre Sarah morte, le sépulcre, le cadavre de Sarah et Abraham. Il se leva de devant son mort et parla au fils de Heth en ces termes. Je suis un résident et un hôte parmi vous. Donnez-moi la propriété d'un tombeau parmi vous pour ensevelir mon mort et l'ôter de devant moi. La sépulture, hein, la grandeur de la sépulture. Alors, pour la sépulture, Abraham veut devenir propriétaire. C'est très extraordinaire, ça. C'est un moment très important. Jusque-là, il était celui qui était mobile au souffle de l'Esprit-Saint. Il devait accepter ça. Puis voilà, vœu de stabilité. Comment le vœu de stabilité, ça se fait? Par le cadavre. Pour ensevelir mon mort. Pour ensevelir mon mort, c'est pour ça. Et l'ôter de devant moi. Comment il sera obligé de rester là? Fixé en sa présence. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince, de Dieu au milieu de nous. Ensevelis ton mort dans le plus beau de nos tombeaux. C'est beau du reste de voir ça, combien Abraham était respecté. Hein. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Ensevelis ton mort dans le plus beau de nos tombeaux. Aucun de nous ne te refusera son tombeau pour y ensevelir ton mort. Abraham se leva, se prosterna devant les gens du pays, devant les fils de Heth, et leur parla en ces termes. Si vous voulez bien que j'ensevelisse mon mort et l'hôte de devant moi, écoutez-moi et intervenez pour moi auprès de Éphron, fils de Soar, pour qu'il me donne sa grotte de Macpella, qui est au bout de son champ, qu'il me la donne contre sa pleine valeur d'argent, en propriété funéraire au milieu de vous. On veut donner gratuitement, Abraham réclame un contrat. Vous voyez bien, ça c'est la prudence d'Abraham. Il veut un contrat. Stabilité. Rien n'est plus stable que la justice. La gratuité entre hommes, aujourd'hui, mais demain. C'est très très, c'est merveilleux de voir ça. Hein. Ce bon sens d'Abraham. Nous aurions dit tout de suite, c'est de la gratuité, c'est merveilleux, acceptez ça. Attention. Il s'agit de quelque chose de très particulier. Hein. Son mort, c'est pas lui. La gratuité, c'est pour nous, c'est pas pour un autre. Pour un autre, la stabilité, c'est la justice. Tout ça est impliqué dedans. Et je crois que c'est très très fort pour comprendre ce que représente cette tradition religieuse. De l'ensevelissement. C'est une tradition religieuse. Or, Éphron était assis au milieu des fils de Heth. Éphron, le Hittite, répondit à Abraham de façon à être entendu des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Le champ je te le donne, et la grotte qui s'y trouve, je te la donne, sous les yeux des fils de mon peuple, je te la donne, ensevelis ton mort. Abraham se prosterna devant les gens du pays, il parla ainsi à Éphron de façon à être entendu des gens du pays. On voit très bien toute la scène, hein. C'est une scène, c'est grandiose devant ça, de devant le mort. Tout prend cette gravité, hein, cette grandeur, le respect du mort, hein, et la grandeur du mort par rapport aux traditions religieuses. Vous savez bien qu'on l'a dit, hein, et c'est une chose qu'on ne doit jamais oublier. Toute tradition religieuse implique le point de vue de la sépulture. Toujours. Et quand les traditions religieuses ne regardent plus la sépulture, les traditions religieuses perdent leur fondement et leur force. C'est ce que certains aujourd'hui nous disent. Les hommes d'aujourd'hui ne savent plus ce que c'est que l'ensevelissement. Ils savent plus ce que c'est qu'ensevelir son mort. Ce qui montre que les traditions religieuses ont perdu leur signification. Alors ça, c'est très grave. C'est un fait, il faut le constater. C'est un fait que les traditions religieuses ont perdu leur fondement, leur enracinement. Veuille seulement m'écouter. Je donne l'argent du champ. Accepte-le de moi, que j'y ensevelisse mon mort. Éphron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent entre toi et moi, qu'est-ce que c'est ? Ton mort, ensevelis-le. » Abraham écouta Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit, de façon à être entendu des fils de Heth. 400 cycles d'argent ayant cours chez le commerçant. On précise tout, hein. C'est pas du vieil argent, non, non, ayant cours. Parce que l'argent, c'est en fonction, hein. On dirait du cours d'aujourd'hui, et c'est vraiment le cours, n'est-ce pas, ayant cours chez le commerçant, ayant le champ de Éphron, 6 à Malpéla, en face de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouvent, ainsi que tous les arbres qui sont dans le champ, qui sont sur et qui sont sur tout le pourtour, passèrent en propriété à Abraham sous les yeux des fils de Heth, de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Vous voyez comme c'est solennel, hein? C'est très important ce moment. C'est l'enracinement de tout le peuple d'Israël à Hébron, à Macpéla, en face de Mamré. Après cela, Abraham ensevelit Sarah, sa femme, dans la grotte au champ de Macpéla, qui est en face de Mamré, c'est-à-dire Hébron, au pays de Canaan. Ainsi, le champ et la grotte qui s'y trouvent passèrent des fils de Heth à Abraham en possession funéraire. Voilà, c'est un contrat en due forme qui fait qu'Abraham, à partir de ce jour-là, n'est plus un étranger. Il est chez lui. C'est la présence du mort qui enracine et qui fait que, à partir de là, il est chez lui, il est en terre de Canaan, en face de Mamré. Hein, c'est très intéressant de souligner ce détail providentiel. Mamré, c'est l'apparition des trois aux chênes de Mamré. C'est l'annonciation faite à Abraham, d'Isaac. Donc c'est tout le mystère de la fécondité de la postérité. C'est juste de l'autre côté, de l'enracinement avec Sarah. Une fois qu'on voit ça, il n'y a plus qu'à assister à la vieillesse d'Abraham. Abraham étant vieux, avancé en âge, et Yahvé avait béni Abraham en Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, celui qui avait autorité sur tout ce qui était à lui, « Mets ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par Yahvé, Dieu du ciel et Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme d'entre les filles de Canaan, parmi lesquels j'habite, mais c'est dans mon pays, c'est dans ma parenté que tu iras prendre une femme pour mon fils, pour Isaac. Ah, ça, c'est très intéressant et très beau. Hein. Faut être sûr. Parce que la femme, c'est très important hein, pour la postérité. Alors, Abraham se fixe en terre de Canaan, au moment même où il se fixe en terre de Canaan par l'achat en due forme de la grotte de Macpella, il veut qu'on retourne dans le pays de ses pères pour chercher une fille, une femme à Isaac. Il faudra comprendre ça, ce mouvement double, hein, et qui est d'autant plus fort qu'on voit que c'était la suite. Hein. Parce qu'on pourrait dire, mais oui, on dirait ça, nous, notre raisonnement aujourd'hui. Hein. Pour bien montrer que vous êtes du pays, mais épouser une fille du pays, c'est la meilleure façon de vous enraciner dans le pays. Pas du tout.